Simone Vapler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des publications Agora. Vous venez de publier un livre qui s'intitule La fabrique des pauvres. Alors, ça suscite forcément beaucoup de réactions et de commentaires. On va en parler ensemble sur cette France qu'on voit tous les jours effectivement évoluer. Qu'est-ce qui vous a amené? Vous connaissez bien, vous, les marchés financiers, vous connaissez bien cet environnement, effectivement, à constater ou en tout cas à montrer qu'il y avait en France un problème grave qui était cette fabrique de pauvres.
Alors, plusieurs choses. Bon, d'abord, la montée du chômage de masse, ça touche tout le monde. En France, alors que d'autres pays semblent mieux que nous échapper à cette fatalité. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on entend partout la France, patati patata, il faut des réformes, et puis on ne voit rien venir. Donc on sait très bien qu'on s'appauvrit, qu'une masse de gens sont de plus en plus exclus, en fait, du monde économique, de la société, bascule dans la précarisation et on ne voit rien venir du point de vue réforme. Donc il y avait bien un processus derrière tout ça. Et puis, bon, si rien ne change, c'est que finalement, ça satisfait ceux qui pourraient faire changer les choses. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu mettre en lumière au travers de ce livre. C'est que si rien ne change, c'est parce que finalement, l'ordre établi convient très bien à certains.
Alors, on voit les débats sur le rôle de l'État, on voit les débats sur les questions d'austérité. Aujourd'hui, il y en a certains qui disent finalement il n'y a pas d'austérité, puisque finalement aujourd'hui 54% de la richesse ou 57% de la richesse nationale, ce sont des dépenses publiques.
Oui, alors ça c'est très important de le comprendre. Si on devait parler de politique économique et qu'il y a 0%, c'est pas d'intervention d'État, libéralisme pur, et puis 100%, c'est tout État et communisme pur, la France, elle a son curseur à 57. 57, c'est énorme. Bon, il y a la plupart des gens qui nous entourent sont en dessous de 50, c'est-à-dire que le secteur privé a encore la main. Donc en France, clairement, il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas de libéralisme sauvage, il faut arrêter de dire ça. Donc il y a un curseur qui est plutôt vers le côté communiste que vers le côté libéral. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que la plupart des décideurs politiques vous disent oui, mais finalement on peut s'en tirer, il suffit de réduire les dépenses de l'État. C'est plus profond que ça, c'est pas réduire les dépenses de l'État, c'est réduire la présence de l'État. Parce qu'il y a une chose qui a du mal à passer en France, c'est que l'activité du secteur public n'est pas créatrice de richesse. La seule activité capable de créer de la richesse, c'est l'activité du secteur privé. Un fonctionnaire, il est payé par des contribuables. Évidemment, le 100% étatique, on a vu que c'était un échec.
Quand on voit là en ce moment les débats sur la hausse des impôts locaux, donc les collectivités territoriales, on est en plein dans ce sujet-là, puisque là on peut dire qu'il n'y a pas d'économies qui ont été faites là-dessus, il y a souvent des doublons. Et il y a eu plutôt des embauches consécutives à cette décentralisation.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a conservé les inconvénients de la centralisation et puis on a cumulé avec les inconvénients de la décentralisation, ça c'est très français. Donc chacun dans son petit coin a effectivement recruté des fonctionnaires à son niveau. Et l'État grossit de cette façon. Mais encore une fois, je pense que c'est une volonté politique délibérée, quels que soient les partis, de créer de la dépendance. Parce que si vous créez de la dépendance, vous pouvez pratiquer le social clientélisme, c'est-à-dire que j'accorde des privilèges à une faction dont je pense qu'elle pourrait voter pour moi aux prochaines élections. Alors, exemple typique récemment, Sarkozy, qui avait créé le statut d'auto-entrepreneur et qui, la veille des élections régionales, dit « Ah, mais c'est un caillou dans ma chaussure ». Évidemment, il fallait draguer toutes les voix des artisans qui se plaignent d'être en concurrence avec les auto-entrepreneurs.
Donc, quelque part, on a des politiques qui ne font pas de réformes. font des réformettes continuelles, et à un moment donné, qu'est-ce qui fait le déclencheur justement? Est-ce que c'est pas finalement la mondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en concurrence, y compris l'État est en concurrence avec d'autres États pour de la création de richesses, parce qu'aujourd'hui un investisseur étranger peut dire je vais en France, je vais en Allemagne, je vais dans d'autres pays, j'investis dans tel ou tel pays.
Oui, donc alors effectivement, par la mondialisation, la France est en concurrence avec d'autres pays, mais avec un secteur privé complètement étouffé. Hein, on voit les discours de Montebourg disant qu'il faut ralentir l'innovation, etc. Or, c'est pas du tout ça qui est demandé. Ce qui est demandé, au contraire, c'est de suivre, d'être agile, et toute création de richesse commence déjà par une destruction de l'ordre établi. Quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, bon, bah, le boulot de moine copiste a disparu, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais lutter pour ralentir le processus, c'est en fait accepter d'être en retard.
Il y a, vous dites, hein, l'éducation nationale, machine à fabriquer des chômeurs, ça on en parle souvent, réforme de l'éducation nationale, on connaît les noms des ministres, parce que c'est souvent des manifestations contre ces ministres à chaque fois. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui?
Alors, en fait, il y a l'éducation nationale, en fait, c'est le couplage entre l'éducation nationale et le marché du travail. C'est-à-dire, vous pouvez être comme en Angleterre, vous avez un système d'éducation nationale où les gens peuvent être éjectés assez vite, mais vous avez un marché du travail très souple. Ce qui fait que celui qui n'a pas eu la chance de suivre des études, il va pouvoir travailler, il va pouvoir gagner sa vie, il va pouvoir s'insérer dans la vie active, il va pouvoir progresser, parce qu'après il peut retourner aux études. Ça c'est admis dans le monde anglo-saxon. Vous avez aussi la vision allemande. Alors tout est très très codifié, le marché du travail est très codifié, l'enseignement est très codifié, mais les gens sont préparés dès le début du secondaire à s'insérer dans la vie active. Et puis, alors, il y a le système français, bah, c'est l'exception, c'est-à-dire qu'on a un marché du travail très codifié et un enseignement qui ne prépare pas du tout à rentrer là-dedans. Et donc, bah, on a tout fou.
Alors, du côté quand même des pistes, hein, parce que quand on a effectivement un constat de ces dernières années, c'est vrai qu'on pourrait ressortir une affiche qu'on montrera d'ailleurs dans cette interview qui date de 1981 avec François Mitterrand. Dans sa campagne électorale, il y avait marqué « d'abord l'emploi ». Donc effectivement, nous sommes dans 2015. Pour ceux qui ne suivraient pas, ça fait quand même quelques années. Sur les perspectives, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce que c'est les citoyens qui peuvent changer ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt des tentations extrêmes, mais qui ne régleront pas forcément ces problèmes-là.
Alors, effectivement, vous le dites, il y a des tentations extrêmes. Aujourd'hui, si on regarde le menu électoral français, on a le choix entre l'international socialisme de droite, l'international socialisme de gauche et le national socialisme. Le dénominateur commun, c'est le socialisme. En fait, je pense qu'il y a une mentalité à changer en France. L'État, c'est bien, il ne faut pas vivre dans l'anarchie, c'est évident, mais trop d'État, c'est nuisible, c'est comme tout le reste, trop, c'est trop. Donc, je pense qu'il faut apprendre à raisonner en autonomie, en responsabilité. L'État ne peut pas tout, l'État ne lutte pas contre le chômage, etc. En revanche, trop d'État crée des chômeurs. Si vous regardez aujourd'hui le débat sur la sécurité des données, en fait, c'est incroyable. Le mot liberté n'est presque pas prononcé. On se protège, mais il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus d'autonomie. Je pense que c'est d'abord là, c'est la mentalité de chacun. La réforme ne vient pas d'en haut. La réforme, elle vient d'en bas. C'est la mentalité de chacun face à l'État, face à ses responsabilités qui est amenée à changer.
Un vrai sujet pour ceux qui nous écoutent, c'est le sujet des retraites. On voit bien que les Français vivent plus longtemps et que peut-être leur vie en dehors de la vie active sera encore plus longue. Si on pense à 30 ou 40 ans de vie non active mais toujours active finalement, il va falloir financer ça. Est-ce qu'il y a un vrai sujet retraite quand on parle des taux qui deviennent négatifs en Europe par exemple? C'est une bombe à retarder. C'est quoi ?
Il y a effectivement un vrai sujet retraite en France qui est moins aigu que dans d'autres pays parce que la France a basé son système de retraite sur un système de retraite dit par répartition, c'est-à-dire que donc les actifs payent pour les retraités. Ça marche très bien, c'est un système de Ponzi, ça marche très bien s'il y a toujours plus d'entrants. Il n'y a pas toujours plus d'entrants, donc ça c'est déjà un premier problème. Et puis il y a la retraite par capitalisation, qui en France est mal vue, mais la plupart des gens, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'ils sentent les limites du système, la plupart des gens ont un système de retraite par capitalisation, au travers de l'assurance vie ou de l'immobilier par exemple. Mais est-ce qu'on arrive au taux zéro ? C'est-à-dire que les assureurs ne peuvent garantir aucune rente. Et si ces taux zéro, voire même négatif, se prolongent, on s'aperçoit qu'on est en fin de partie. Donc que la retraite par capitalisation, même ça, est mise en danger par un espèce de monde qui est devenu fou, avec du keynésianisme stupide. Il faut aussi que les gens soient conscients, par exemple, que des taux bas n'ont jamais favorisé l'économie. Soit les circonstances sont mauvaises, et si un patron peut emprunter pour 1% et remplacer des employés par une chaîne automatisée, il le fera. Parce qu'il sait qu'il est capable de plus en France. Il sait qu'il est capable de s'adapter plus vite avec des robots qu'avec des employés. Donc on nage dans des aberrations dont on sortira malheureusement douloureusement. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème et qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà.
Eh bien, c'est effectivement dans le débat, cette donc la fabrique des pauvres, votre ouvrage, Simone Vapler. Merci d'avoir été avec nous.
Bon, ben merci.